1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
Are we on the air?
Oh, salut les pédés!
SLP, salut les PD, c'est parti, salut Ghislain.
Salut Philippe.
Comment ça va?
Eh ben écoute, ça va, parce que tu vas régler un de mes problèmes.
Comment ça, tu as un problème?
Ouais, j'ai un gros problème
non,
en fait.
Okay. Si. Mais qu'est-ce qui se passe?
Eh ben en fait, je suis allé voir une expo à Barcelone sur Andy Warhol.
Ouais.
Et je suis sorti de là super frustré.
Ah bon? Mais pourquoi?
Bah parce que j'ai vu les tableaux en vrai que je voyais en reproduction partout. Bon, c'était cool, c'était sympa. Mais en fait, je suis sorti de là en sachant pas trop pourquoi ce monsieur, c'était une révolution. Pourquoi c'était un grand artiste. Quel était son art. Qu'est-ce qu'il avait voulu
D'accord.
faire. Enfin, voilà quoi. Et
ouais,
donc, c'est super frustrant.
Gros problème, hein.
Bah ouais.
Et surtout, enfin, je sais pas si on va réussir à le résoudre. Mais si tu veux, on improvise un truc, là, ce mois-ci, sur Andy Warhol. Ça te dit?
J'adore le terme improvisé. Ok, d'accord. Bah ouais, je comptais sur toi pour okay. m'éclairer un petit peu sur Andy Warhol.
Allez, bah je sais pas si je vais t'éclairer, mais en tout cas, moi, c'est un personnage qui me fascine quand même depuis pas mal de temps. Donc, ouais, pourquoi pas. Allez, on se lance dans un mois Andy Warhol et on essaye de, sinon résoudre l'énigme, au moins te sortir de cette frustration.
Ouais, s'il te plaît.
Ok. Allez, eh ben, on improvise un édito.
Vas-y.
30 ans après sa mort, la question reste sans réponse. Qui était Andy Warhol? Dessinateur, peintre, photographe, cinéaste, producteur, mécène, chroniqueur, auteur, philosophe, prophète, imposteur? Pour le savoir, il ne suffit pas de contempler ses toiles, voir ses photos, visionner ses films. Il faut aussi l'écouter, le lire, l'observer sous toutes ses facettes, pour tenter de déceler sa pensée paradoxale. Insignifiante et subversive, anodine et profonde, imbécile et clairvoyante simultanément. Warhol, c'est Drella, c'est son surnom, contraction de Dracula et Cinderella, Cendrillon en anglais. Commencé comme garçon timide et discret, Warhol deviendra gourou de l'underground, pape du pop art et maître pâle du Gotha mondain et planétaire. Miroir de son temps, cet être reflet est l'ombre portée de l'Amérique, d'une certaine idée de la société. On dit Andy, comme on dit Marilyn ou Elvis. Il sera le premier à montrer la société de consommation non pas telle qu'elle est, mais telle qu'elle est relayée par les médias. Ce n'est pas l'objet qui l'intéresse, mais l'image qui en découle. Andy Warhol, c'est le produit, le label, comme finalité ultime pour tous. Face à ce constat radical, nous sommes acculés, être ou ne pas être consommé, dérisoire ou sublime.
Waouh !
Voilà.
Ben en tout cas, voilà, ça donne envie.
Ça donne envie ?
Bah ouais.
Bon, ben, on va partir pour le premier volet. Allez.
SLP, l'émission qui vaut trop le cucu.
Alors, on a quatre émissions, en fait, Ghislain, pour
ouais.
Parler de Andy Warhol et de le faire découvrir aux auditeurs. Le premier épisode, je l'ai intitulé « De Pittsburgh à New York », parce qu'il est né à Pittsburgh, et de Andrew, qui est son vrai prénom, à Andy.
D'accord.
Donc, un premier son, si tu veux bien, sur son enfance. On écoute.
Alain QF, Andy Warhol a grandi dans une famille originaire d'Europe centrale, qui était arrivée de Galicie au début du XXe siècle, une famille catholique pratiquante. Quelle était l'atmosphère à la maison.
Alors c'est pas tout à fait, c'est grec catholique, donc ça veut dire que l'église à laquelle la famille Warhola appartenait est une église qui suit le rituel orthodoxe. Et c'est très important de le remarquer puisque ça conditionne évidemment tout un rapport à l'icône dans l'église que fréquentait la famille et que le jeune Warhol a pu voir et regarder encore et encore à chaque dimanche. Et les témoignages de l'ensemble de la famille convergent vers la même atmosphère très très pieuse, avec un respect des règles religieuses assez strictes, hein, particulièrement le dimanche, où il n'était pas question de travailler, où là, c'était réellement le jour du Seigneur qui était dédié à la prière et à la concentration. La mère de Warhol, après le décès de son père, a pris soin de son jeune fils, hein, qui était le dernier des trois enfants, et il l'a couvé comme un enfant un peu maladif qu'il était, l'a incité à dessiner et à perpétuer en tout état de cause ce rapport à la religion, ce rapport à la sainteté dans un contexte social par ailleurs difficile, puisque la famille Warhola, comme beaucoup d'autres familles d'origine d'Europe centrale, vivait dans une sorte de ghetto où les traditions en définitive ont pu se perpétuer presque intactes.
C'était un enfant maladif.
C'était un enfant fragile. Ça se voit encore dans les derniers portraits, en particulier au niveau de sa peau, qui était une obsession pour lui, sa peau, son nez. Et il avait aussi des troubles nerveux qui se sont manifestés, en particulier après la mort de son père. La danse de Saint-Guy, une chorée qui montre bien que la défense qu'il a adoptée par la suite, cette espèce de froideur, d'indifférence, cette façon de tenir les gens à distance en permanence, trouve son origine dans ce traumatisme qu'il a pu vivre au cours de son enfance.
Ce qu'il dit de ses rapports avec sa mère qui lui donnait des sucreries lorsqu'il travaillait bien, c'est une clé importante.
Comme chaque mère poule, elle a eu tendance à en faire sa chose, elle a eu tendance à le choyer un peu trop, à en faire, dans un milieu pauvre, c'est ça qui est aussi assez touchant, à lui donner le goût du luxe, à lui donner le goût d'une autre vie possible. Et bien évidemment, dans ce sens-là, le rapport au cinéma, qui fait ses premiers pas dans les années 30-40, c'est une chose qui le fascine, non seulement en tant que mode de représentation fictionnel, mais aussi en tant que miroir d'un monde auquel il n'a pas encore accès et dans lequel il, naturellement, il a tendance à se projeter lui-même.
Once in a lullaby.
Donc là, voilà pour le côté enfance, famille.
Ouais, qui pose des bases.
Qui pose des bases, ouais. C'est un extrait d'un documentaire produit par France Culture qui s'appelle, c'est dans la série Une vie, une œuvre, donc Andy Warhol. Je vais me servir pas mal je vais extraire pas mal de sons de ce documentaire qui est assez passionnant. Et on va beaucoup entendre donc Alain Cueff, qui est un historien de l'art, et aussi Cécile Gilbert, qui est essayiste, romancière, et qui s'est beaucoup intéressé à Warhol. J'ai un autre son en rapport à l'enfance, enfin à Pittsburgh plutôt. Là, c'était le versant plutôt doux à l'intérieur, parce qu'on a vu le rôle important de sa mère.
Ouais.
Mais c'est rude à l'extérieur, Pittsburgh. Donc, il a été l'objet très très tôt de difficultés avec les autres élèves à l'école. C'était un petit gars plutôt maladif, on l'a entendu, ouais. Efféminé.
C'est quel type de ville, Pittsburgh ?
Pittsburgh, c'est une ville, on va l'entendre dans le son, ouvrière, industrielle, et donc il a été confronté aussi à ce milieu-là. C'est quelqu'un qui est qui vient de, voilà, immigrer, classe ouvrière. Mm-hmm. Donc ce deuxième son que je vous propose, il est extrait d'une émission qui s'appelle Stupéfiant, faite par Léa, comment elle s'appelle ?
Léa Salamé.
Léa Salamé, tout à fait. Assez récente, et j'ai extrait un petit module sur justement la ville d'origine de Andy Warhol, Andrew Warhol à l'époque, Pittsburgh. On écoute.
Pittsburgh, Pennsylvanie. Patrie des hauts fourneaux et du métal. Pour Andy Warhol, bien plus qu'une ville natale. C'est là qu'il forge sa légende. Pour nous servir de guide, nous retrouvons son neveu.
Ce qui est fou à mes yeux, c'est qu'à l'âge de 11 ans, Andy Warhol était déjà accompli. C'était un artiste. Il aimait la photographie, il aimait... Enfin plutôt, il était fasciné, subjugué par les stars de cinéma, riches et célèbres, à 11 ans. C'était déjà le Andy Warhol que tout le monde connaît aujourd'hui.
Et cet Andy Warhol qu'on croit si bien connaître, fils d'immigrés débarqués d'Europe de l'Est, c'est ici qu'il a grandi, dans ses quartiers ouvriers, ses quartiers populaires, le ghetto slovaque de Pittsburgh, où il puise son inspiration.
Si vous regardez par là-bas, il y a un fleuve plus loin. Et tout au long de ce fleuve, en amont et en aval, il y avait de grosses aciéries. Elles tournaient en permanence. Andy a grandi parmi toutes ces usines de métal. Dans sa tête, une idée était incrustée. Je vais travailler comme ces aciéries, comme ces usines. Je vais produire des objets tous les jours. Et c'est ce qu'il a fait. Il travaillait 7 jours par semaine.
Ainsi va Andy Warhol, enfant fragile et malade à Pittsburgh. Des années plus tard, artiste machine, infatigable. En fait, la seule usine dans laquelle il ait mis les pieds, c'est la sienne, la Factory, son immense atelier à New York. Comme dans les fabriques d'alors, les petites mains s'agitent, préparent les toiles, impriment et reproduisent à la chaîne.
When you're growing up in a small town, when you're growing up in a small town, when you're growing up in a small town, you say, no one famous ever came from here. When you're growing up in a small town, and you're having a nervous breakdown, and you think that you'll never escape it, yourself or the place that you live, where did Picasso come from? There's no Michelangelo coming from Pittsburgh. If art is the tip of the iceberg, I'm the part sinking below. When you're growing up in a small town, bad skin, bad eyes, gay and fatty, people look at you funny. When you're in a small town, my father worked in construction. It's not something for which I am suited. Oh, what is something for which you were suited? Getting out of here. In a small town. If they stare, let them stare in New York City. At this pink-eyed painting albino. How far can my fantasy go? I'm no Dolly coming from Pittsburgh. No adorable, lisping Capote, my hero. Oh, do you think I could meet him? I'd camp out at his front door. There's only one good thing about a small town. There's only one good use for a small town. There's only one good thing about a small town. You know that you want to get out. When you're growing up in a small town, you know you'll grow down in a small town. There's only one good use for a small town. You hate it, and you know you'll have to leave.
Oui, donc voilà, Pittsburgh, il suffit pas d'y naître, encore faut-il en partir.
Ouais, je crois que c'est le... Bah, apparemment, c'était le truc à faire, quoi.
Ouais,
c'était
ouais.
Un début.
C'est ça. Donc là, ce qu'on vient d'entendre, c'est un extrait d'un album qui s'appelle Songs for Drella. Ouais. Fait par Lou Reed et John Cale en 1990, en hommage du coup à Andy Warhol, qui était quand même leur producteur initial, puisque on en parlera plus tard, mais ce fameux groupe de rock, un des plus mythiques de l'histoire du rock, le Velvet Underground, dont faisait partie John Cale et Lou Reed, oui. C'est quand même Andy Warhol qui les a produits au milieu des années 60. Voilà, un précurseur. On reparlera de ça, bien évidemment.
Ouais, voilà, parce que là, il est encore tout petit.
Là, il est encore tout petit, mais enfin pas si petit que ça, hein, parce que il a, je crois que quand il part de New York, il part pas seul. Il doit avoir plus d'une vingtaine d'années,
ouais.
22 ou 23 ans. Bon, on l'a compris, il était couvé par sa mère. Je pense qu'elle a eu du mal à le laisser partir. Il avait deux grands frères aussi, qui étaient un peu inquiets pour son devenir. Mais finalement, il décide de se barrer. On écoute.
On est partis ensemble à New York. Ses frères ne l'auraient pas laissé partir tout seul. Ils pensaient qu'il était trop jeune. Ils ne voulaient le laisser partir que si nous habitions ensemble. Mais je pensais que c'était bien de sortir Andy de Pittsburgh, où il n'y avait pas vraiment d'avenir. On a déménagé dans cet appartement.
Quand il est arrivé à New York, il a fait de la mode, des dessins.
Il téléphonait à la secrétaire de directeur artistique, il y allait et obtenait le boulot.
Il travaillait pour Vogue et Harper's Bazaar. Et puis il a commencé avec I. Miller. Et vraiment, ses pubs pour les chaussures I. Miller étaient spectaculaires.
Andy trouvait une présentation simple et brillante qui était l'essence même de l'idée.
Cécile Gilbert, en 1950, Andy Warhol quitte Pittsburgh et s'installe à New York. Qu'est-ce qu'il y fait ?
Alors, il devient illustrateur. En fait, il devient un artiste commercial. En fait, c'est l'appellation qu'on donnait aux illustrateurs de presse et aux illustrateurs de publicité. Et en fait, il vient à New York pour travailler à la fois dans des magazines en tant qu'illustrateur publicitaire. Il travaillera aussi pour des grands magasins où il fera des vitrines. Et à l'époque, bon, il a ce dessin qu'on connaît, très élégant, un peu maniéré, parfois un peu mièvre, parce qu'il est influencé par Cocteau, il est influencé un peu par ce type de trait. Et en fait, il souhaite, au bout d'un moment, percer comme artiste-artiste, c'est-à-dire rentrer dans la cour des grands, ce qui sont les galeries d'art. Et donc, il y a toute une stratégie de Warhol qui va consister à faire ce qu'il faut faire pour rentrer dans cette cour des grands des galeries d'art.
Je pense qu'il a deux motivations en travaillant pour la publicité. L'une, c'est de gagner sa vie et de la gagner aussi bien que possible. La deuxième, c'est de prendre son temps pour observer les conditions dans lesquelles, à New York, dans les années 50, on peut devenir un artiste. Et ce que l'on peut lire dans Pupisme, qui est ses mémoires des années 60, c'est une attention constante à tous les phénomènes d'avant-garde, d'underground de l'époque, une fréquentation assidue des théâtres du Lower East Side, des expositions, du rock, etc. Donc une plongée dans la culture en formation new-yorkaise qui est à laquelle il est d'autant plus sensible et qu'il est en position de bien comprendre, précisément parce qu'il n'en fait pas encore partie professionnellement. Donc je crois que c'est là où il est d'une intelligence et d'une intelligence remarquable, c'est que il trouve le moyen de se préserver, de constituer un trésor de guerre financier qui lui permet une indépendance totale et qui lui permet aussi une certaine opulence. Mais cette Mais cette opulence n'est pas une fin en elle-même. Il est là aussi pour regarder ce qui se passe et comment ça se passe. Il le dit lui-même dans Popisme. Il a le sens de que quelque chose va se passer. Donc il est aux aguets, il est à l'affût. Il regarde quelle va être la prochaine brèche dans laquelle il va pouvoir s'engouffrer. Et c'est ça, Warhol aussi. C'est une façon de synthétiser les différentes manifestations culturelles dans toute leur amplitude, c'est-à-dire aussi bien dans le monde commercial, dans la culture populaire, que dans la culture la plus élitiste, entre guillemets, même si, bien évidemment, il s'agit d'une culture underground qui se développe dans un quartier relativement pauvre et déshérité de New York. Et Warhol, d'ores et déjà dans les années 50, est en train de produire cette synthèse entre le bas et le haut, entre ces croisements qui vont pouvoir s'opérer et à partir desquels il va pouvoir opérer pour concevoir une œuvre qui aura et qui va s'inscrire en effet dans les pas de ce mouvement qui va s'appeler le pop art, avec une curieuse convergence d'intérêts de la part d'un certain nombre d'artistes à peu près au même moment.
Est-ce que ça te donne déjà quelques clés, Ghislain ?
Ça te donne quelques clés, ça donne surtout envie d'aller plus loin, de voir justement comment est-ce qu'il en arrive jusqu'au pop art et tout ça. Parce que là, on a les bases.
Ouais.
Il avait fait des études de dessin,
oui,
des
oui,
choses
oui,
comme
oui,
ça.
Oui, ouais. Il a fait une école d'art à Pittsburgh, hein, donc oui, tout à fait. Enfin, je pense que c'est quelqu'un très tôt qui, sans savoir précisément qui il est, mais quand même, il y a quelque chose qui est moteur chez lui. Hein. Et donc, oui, c'est très, très tôt, enfin, dans tous les témoignages qu'on peut avoir de sa famille, de son entourage proche, jeune, très, très tôt, son talent de dessinateur est reconnu, son tempérament artistique, oui, c'est évident. Mmh. Mais au-delà de ça, ce qui est assez fort dans les sons qu'on a pu entendre, c'est que apparemment c'est pas quelqu'un qui galère longtemps, hein. Là il va à New York et très vite apparemment il est reconnu comme quelqu'un de doué. Les portes s'ouvrent pour lui très facilement.
Ils étaient là-bas, enfin on a vu ces dessins dans les magazines. Et c'est vrai que c'est des dessins très élégants des années 50, 60, ouais, vraiment illustrations de mode. J'allais dire sans grande originalité.
Non, ouais, parce qu'à ce moment-là, je pense qu'il n'a pas encore vraiment trouvé ce qui va après le porter. Mais c'est intéressant parce que justement, j'en viens au dernier son qu'on va écouter aujourd'hui. Je l'ai intitulé une méthode efficace. Parce qu'effectivement, à l'aube des années 60, après déjà les quelques expériences qu'il peut avoir en tant qu'illustrateur, artiste commercial, y a autre chose qui le porte. Et en fait, c'est dans ce mouvement qui vient d'Angleterre du pop art que voilà, il va rentrer là-dedans et trouver quelque chose, une sorte effectivement de concept, de méthode qui va lui servir tout le reste de sa vie. On écoute, on en reparle après.
Andy Warhol, what do you think made Coke what it is today?
Andy Warhol, à votre avis, qu'est-ce qui a fait du Coca-Cola ce qu'il est aujourd'hui?
Well, I think I made it because I drink so much of it.
C'est moi qui l'ai fait. J'en bois énormément. Je le peins. J'adore ça. J'ai gardé toutes mes bouteilles. Les vieilles sont les plus belles. Ce que le Coca-Cola a de mieux, c'est qu'il coûte pas cher. Des tas de gens différents peuvent boire du Coca-Cola. Le président peut en boire en regardant la télé, et moi je peux faire autant, au même moment. Ou ma mère peut boire du Coca devant la télé.
Et son coup de génie, son coup de maître, c'est de rentrer dans le pop art avec la peinture d'une bouteille de Coca-Cola au début des années 60.
Il sait que, il y a cette espèce de mouvement pop qui est en train de se développer, qui a pris naissance dans les années 50 en Angleterre, qui a une sorte de mouvance comme ça américaine qui se déclenche autour d'objets de consommation ou de toute une imagerie pop. Populaire, qui est à la fois lié à la publicité, à ce qu'on trouve dans les journaux, à ce qu'on trouve dans les magasins, et il essaye en fait de bidouiller autour de ça, il sait pas trop ce qu'il veut faire. Et en fait, il s'empare de la bouteille de Coca-Cola et il l'a fait d'une façon, il l'a reproduit sur une toile de façon manuelle et puis il l'a reproduit de façon mécanique.
Il y a cette célèbre anecdote qu'il raconte lui-même dans Popisme. Il fait venir un ami à lui qui est cinéaste, Emile De Antonio. Il lui présente deux versions de la même bouteille de Coca-Cola, l'une avec un certain nombre de coulures, de peintures, de traces, qui donnent un aspect peint à ce tableau. Et l'autre, qui est la version à laquelle finalement il va s'en tenir, qui est d'une image beaucoup plus raide, beaucoup plus dépouillée, sans aucune trace de la main, sans aucune trace de manufacture. Et Emile De Antonio lui dit, ce que tu as fait, cette version avec les coulures, avec les traces de crayon, c'est quelque chose qu'on a déjà vu, que l'on connaît. Et en effet, ça pouvait être assimilé à ce que Jasper Johns et Rauschenberg faisaient à la même époque. En revanche, l'autre, dans sa brutalité, dans cette façon d'arriver, de se projeter vers le spectateur, cette façon de couper court à toute espèce de bruit artistique, cette façon de mettre en avant une image que tout le monde a vue des centaines de milliers de fois, et de la hausser à une hauteur à partir de laquelle la visibilité, les conditions de la visibilité changent du tout au tout. Donc on ne regarde plus les choses de la même façon. Donc c'est intéressant aussi de voir comment il est capable d'identifier le bon produit, celui qui est vraiment emblématique d'une société. Et il est évident que le café Martins ou que les pêches Del Monte n'ont pas le même impact sur l'imaginaire populaire qu'une bouteille de Coca-Cola, qui est le produit, en outre, comme il le dit aussi dans ma philosophie, que tout le monde consomme, c'est-à-dire pauvre ou riche, Rockefeller comme le clochard du coin, consomme le même Coca-Cola qui a le même goût pour tout le monde, et la même apparence, faut-il ajouter, bien évidemment.
Un des savoir-faire de Warhol, qu'il a certainement appris dans la communication, c'est d'avoir des idées fortes et de les appliquer de manière très efficace.
Thomas Lélu.
Donc il y a un sens de l'efficacité chez Warhol. La sérigraphie est vraiment l'outil hyper pratique, justement, pour faire quelque chose de très, très efficace.
La répétition, quel effet produit-elle ?
La répétition, elle produit d'abord un effet, je dirais comique. On répète quelque chose et le fait de le répéter, ça rend un peu, pas ridicule la chose, mais ça la rend, ça la banalise. Donc il y a un effet de banalisation. Il y a un effet aussi, un effet, comme en musique, ce qu'on appelle la réitération évolutive, c'est-à-dire en musique chez Steve Reich par exemple, ou Terry Riley, des gens comme ça, où finalement l'effet de répétition va rendre la chose hypnotique. Donc on pourrait dire que il va mettre l'image, il va créer avec l'image, en la reproduisant, un effet hypnotique sur le sujet. Le sujet étant souvent quelque chose de ou de banal ou au contraire de très dur, puisque ça peut être un accident de voiture, mais ça peut être aussi une star. Donc l'effet de banalisation sur une star, enfin mettre le même niveau, la même valeur sur une star, une voiture ou des fleurs, c'est mettre un petit peu tout au même plan. Et finalement, en les révélant, en les multipliant, c'est comme s'il voulait les réactiver, les réveiller.
Alors, au-delà de de la méthode là, qu'il élabore, sur l'effet hypnotique, je trouve que c'est assez juste. Mais après, pour donner une clé, ce que je trouve intéressant, c'est que c'est un être apparemment hypersensible, hyper timide, qui, sa vie durant, n'a pas cessé de se protéger. On en reparlera de ça. Je voudrais citer un truc qui dit « Plus vous regardez la même chose, plus elle perd sa signification, et plus vous vous sentez bien et vide. » Et je trouve que ça donne un éclairage sur, finalement, son travail. Parce que De mon point de vue, cette méthode qu'il élabore, effectivement, ça produit une forme d'art, ça produit des tableaux, mais je pense que ça a une signification aussi pour lui, sans doute, que c'est peut-être un moyen de s'extraire aussi des tourbillons du monde qui ne vit pas forcément de façon très sereine, quoi.
Ouais, ça, je sais pas, c'est, mais ça, ouais, oui, ça pose toujours la question, en fait, de savoir est-ce qu'il est dans avec cette société de consommation, oui, etc., qui met en scène, qui l'utilise, c'est son moyen. Est-ce qu'il est dans quelque chose qui le... c'est un hommage, c'est une dénonciation, c'est... Enfin, tu vois, je trouve qu'il y a toujours cette ambiguïté quelque part.
Tu sais quoi, c'est un super teaser pour les prochaines émissions, Gisela.
T'as vu, hein, j'improvise
t'es,
bien.
T'es parfait, on est au bout de la demi-heure. Et je pense que là, c'est parfait, on va conclure cette première émission là-dessus. Wow. Je sais pas si on répondra à cette question-là, mais évidemment, elle se pose. Et on aura en tous les cas des pistes là-dessus. Moi, je propose qu'on revienne en deuxième semaine.
Moi, je serai là, en tout cas.
Ça marche. Hein. Allez, ciao.
Au revoir.